BFM Business et Tech&Co présente De quoi je me mêle depuis le MWC à Barcelone. François Sorel.
Et un grand bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Bienvenue dans De quoi je me mêle, votre rendez-vous tech du week-end. Très heureux de vous retrouver, bien sûr. Et vous l'avez remarqué si vous êtes avec nous en vidéo et peut-être même en audio parce qu'il y a un peu de bruit quand même, un peu de brouhaha. Nous sommes ici à Barcelone à l'occasion du Mobile World Congress édition 2024. Et c'est un De quoi je me mêle pur télécom qu'on va vous proposer maintenant. Voilà, autant se faire plaisir. Hein. Nous y étions tout au long de cette semaine avec BFM Business. Voilà, on vous propose aussi un De quoi je me mêle. Avec tout à l'heure, vous allez voir l'un des patrons de Xiaomi qui viendra nous présenter en fait toute la nouvelle gamme de smartphones Xiaomi qui a été justement dévoilée ici à Barcelone avec notamment le Xiaomi 14. Et puis, on recevra le patron de DxOMark. Voilà une boîte française qui est géniale, qui est un labo qui teste énormément de fonctionnalités à la fois sur les smartphones mais sur tous les produits électroniques grand public. Et Frédéric Guichard, qui est le patron de DxOMark, sera avec nous pour nous expliquer pourquoi il est ici au Mobile World Congress de Barcelone. Voilà, merci d'être avec nous. Le hashtag DQJMM, bien sûr, pour nous suivre sur les réseaux sociaux. Bienvenue, c'est parti pour De quoi je me mêle depuis Barcelone. Évidemment, le début de quoi je me mêle, la première partie en tous les cas, vous le savez, elle est toujours dédiée à l'actu. Et l'actu, donc le club de la presse IT, c'est avec Mélinda d'Avansoula. Salut Mélinda.
Salut François.
Comment ça va? Hola, qué tal?
Hola, qué tal, comme on dit ici.
Oui, parce qu'en fait, on est complètement pas bilingue. Enfin, moi perso, toi tu parles bien, je crois, espagnol.
Je comprends mieux que je ne le parle.
Voilà. C'est pour ça qu'on va faire ce De quoi je me mêle en français, ça sera plus facile pour tout le monde. Mélinda, qui est journaliste, vous le savez, à la rédaction de Tech & Co, qui a fait le déplacement ici, au Mobile World Congress. Vous pouvez retrouver, évidemment, toutes les trouvailles de Mélinda sur le site de Tech & Co, bien sûr, sur la plateforme, à l'écrit, en vidéo, bien sûr. Et tu vas nous faire un petit résumé, là, de tout ce que tu as pu voir.
De mes premières pérégrinations.
De tes premières pérégrinations.
Quand même, dans ce salon.
Voilà.
Alors, ça ne change pas, salon de la téléphonie. Donc, forcément, on a beaucoup de smartphones.
Beaucoup de smartphones.
Autant
que d'habitude, tu trouves ou pas?
Alors, c'est différent parce qu'on sait que, depuis quelques années, les gros fabricants, les gros constructeurs ont tendance à déserter le salon. On n'a plus Sony, on n'a plus Samsung, a déjà fait sa conférence pour présenter ses Galaxy S24.
Alors ils sont présents, il y a un stand, hein, Samsung.
Voilà, évidemment. Mais ils sont là aussi presque avec leur catégorie Galaxy A, tu sais, tout ce milieu de gamme qui est vraiment les smartphones qui se vendent le mieux chez eux. Donc c'est souvent ces modèles-là qu'ils exposent ici. Mais au niveau des grandes conférences, on n'en a eu que deux. Donc Xiaomi, comme tu l'as annoncé, tu vas en reparler après, et Honor. Et c'est vrai qu'à une époque, il y avait Huawei, il y avait plein de gens. N'oublions pas que c'était le salon de la présentation de smartphones. Voilà, deux petits smartphones, deux petites familles de smartphones. Mais bon, on est quand même sur du premium. Hein. Ça reste quand même un salon où on annonce, pour les constructeurs asiatiques, vraiment les flagships, les porte-étendards de leur gamme.
Et puis, ce qui est intéressant aussi au Mobile World Congress, c'est que c'est le théâtre de plein d'innovations, parfois insolites, étranges. Ouais. Et tu vas nous en parler tout à l'heure avec un PC à écran transparent. Il y a des bracelets pliants. Vous allez voir des smartphones aussi qui se rechargent.
Oubliant qu'il y a un chargeur en dessous.
En oubliant qu'il y a un chargeur, c'est dingue. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Mais pour débuter, c'est Honor, bien sûr, qui est l'une des stars de ce salon. Hein. Ils ont un immense stand ici. Et ils ont présenté leur nouveau Magic V6,
Magic,
je crois.
Magic 6 Pro.
6 Pro.
On va y arriver. 6 Pro. Alors, qui était déjà annoncé en Chine, là, c'est le lancement mondial.
Mondial,
en gros,
d'accord.
Hors Chine.
Donc, on savait déjà à peu près ce qu'ils
allaient
annoncer.
On savait à peu près tout. C'est leur modèle vraiment haut de gamme. L'année dernière, ici même, on avait parlé du Magic 5 Pro, qui était vraiment un smartphone qui sait tout faire, en fait. C'est vrai qu'on a tendance à parler d'Apple, de Samsung, de Xiaomi. Mais Honor, mine de rien, depuis qu'ils se sont, alors je vais pas dire débarrassés, c'est pas très gentil,
émancipés de
Huawei,
ouais.
Ils vivent leur meilleure vie. Soyons honnêtes, ils vivent leur meilleure vie. Avant, c'était une marque qui était connue pour vendre des smartphones milieu de gamme très très bien, parce que c'était quand même la R&D de Huawei, très très bien, à des prix très agressifs.
Surtout sur le web au début.
Ouais, c'était une marque du web, donc il y avait une forte communauté. Ouais. Et depuis qu'ils sont tout seuls, ils vont sur du smartphone pliant. On a parlé du Honor Magic V2, qui est quand même un super smartphone
qui est sans
ultra
doute
fin.
Le plus beau smartphone pliant du moment.
Clairement. Et ils ont donc cette gamme Magic, Magic 6, 6 Pro et 6 Lite qui est déjà sorti, et ben sur lequel ils mettent vraiment toute leur innovation. La photo, donc là, on a une photo, on a un triple module capteur photo au dos avec un téléobjectif de 180 mégapixels. Wow. Parce que là, c'est vraiment pour faire du zoom à gogo, qui est pas mal, c'est vrai. Ils ont une grosse qualité de photo et une grosse qualité d'écran. Parce qu'on sait que ce qui intéresse les gens, c'est d'avoir un bel écran pour regarder
bien
et tout.
Sûr.
Et leur spécialité, ça devient la résistance de l'écran. Donc, sur le Magic 6 Lite, par exemple, bah, moi, j'ai planté des clous avec, sans le casser. Et bien, là, ils ont
donc
mis...
Donc, tu te servais du téléphone comme d'un marteau.
Ouais, j'avais perdu mon marteau et j'ai tapé avec le téléphone.
Mais bien sûr, c'est tellement logique.
Évidemment, c'est logique, voyons. Mais voilà. Et bien là, c'est pareil. Ils ont un Nano Crystal Shield. Alors, ça ressemble un peu au Ceramic Shield dans l'idée d'Apple ou à d'autres Gorilla Glass qu'on connaît. Mais c'est vrai que c'est un revêtement qui est fait pour être ultra résistant à tout. Et leur petit truc, bah évidemment, smartphone à l'IA. Comment pouvait-on y couper de l'IA, mais pas la même IA que chez Google ou chez Samsung. C'est-à-dire qu'on ne nous a pas promis de faire de la traduction, de faire de la retranscription, des choses comme ça.
Oui, ce n'est pas de l'IA générative.
Alors...
Il y en a un peu quand même.
Il y en a un petit peu, mais pour comprendre comment toi tu l'utilises. Comment est-ce que ton smartphone va te servir vraiment dans tes usages? Alors, ça, on se rapproche un peu de la philosophie d'Apple, c'est-à-dire qu'il est proactif par rapport à ce que tu fais, mais il pourra quand même t'aider si tu as besoin d'aide à la rédaction de quelque chose. Mais il est vraiment pensé, ils veulent de l'IA. Alors, ils adorent cette phrase qui est « human-centric ». Ouais, on comprend l'idée, mais c'est vraiment, pour une fois, on nous promet pas des usages qui vont être très waouh deux secondes et plus nous servir. On nous promet des usages utiles vraiment au quotidien. Mmh. Moi, j'ai bien aimé l'idée, par exemple, pour les appels. Quand vous avez des appels, vous n'avez pas envie que tout le monde entende, mais vous êtes dans un environnement comme ici, hyper bruyant. Il y a un système intelligent qui va baisser la voix de votre interlocuteur.
Ah
vous,
ouais.
vous entendrez toujours, mais pas l'environnement. Des petites choses comme ça sur la confidentialité qui sont assez intéressantes.
Et on sent qu'il y a toujours aussi, disons... Enfin, derrière Honor, il y a l'héritage de Huawei en termes de qualité photo,
de qualité de hardware.
On sent, alors, ils se sont séparés de Huawei, mais on a l'impression que les meilleurs ingénieurs de Huawei, je ne sais pas, hein, c'est peut-être pas ça, mais j'ai l'impression qu'ils gardent quand même l'héritage de l'excellence de Huawei à l'époque. Mmh. Parce que Huawei, et encore aujourd'hui, Huawei, alors on parle plus de leur téléphone parce qu'il n'y a plus Google à l'intérieur, mais ils font, le Mate 60 est une bombe, ce téléphone.
Huawei, il y a un héritage, comme tu dis, sur le design, un soin apporté au design, un soin apporté à la photo.
Oui, oui, oui.
Huawei reste aujourd'hui, alors voilà, avec un smartphone qui a des soucis pour toucher le grand public.
Qui est inutilisable en France puisqu'il n'y a pas les services Google. Hein.
Bah, tu vas recevoir des Xmark aussi. Ils te diront que ça reste en photo. Le NEC plus ultra.
Voilà, et donc Honor, qui était la petite sœur en fait de Huawei, a gardé, on a l'impression, ce savoir-faire.
Les mêmes gènes.
Les mêmes gènes. Et c'est assez intéressant.
Et c'est intéressant, et c'est une marque qui est en progression. Alors, on arrive sur des smartphones qui valent cher. Hein. On arrive dans la cour des 1000 euros et plus. Hein. On est à 1300 euros, je crois, pour le Magic 6 Pro. Donc là, pour le coup, qui est vraiment le top du top. Qui arrive quand même avec 512 gigas de stockage. Je voulais quand même le signaler parce qu'aujourd'hui, même en haut de gamme, on démarre souvent à 128 dans les mêmes gammes de prix.
512, ça commence à être vraiment sympa.
Ça commence à être sympa au niveau stockage. Voilà, petite chose, mais un smartphone à suivre qui arrive à la mi-mars.
Et ce qui est intéressant, c'est tout l'écosystème qu'ils mettent en place, un peu à l'image d'Apple. C'est-à-dire que tu as ton Mac, tu as ton iPhone, tu as ta tablette. Et bien, tout ce beau monde discute
ensemble, voilà. Alors ça, c'est aussi, leur IA, elle doit servir à ça. Alors je ne l'ai pas dit, il y a quelque chose par exemple qui est intéressant, c'est que le smartphone permettra l'eye tracking aussi, j'ai oublié de le spécifier. Ils ont une capsule en façade qui ressemble étrangement à Dynamic Island, avec les mêmes raccourcis pour les notifications, mais que vous pouvez contrôler à l'œil. Ça, c'est quand même intéressant.
Et ça veut dire quoi, en fait?
Ça veut dire que tu regarderas et que tu es en train de faire autre chose et que tu peux choisir toi-même de faire, un peu comme le Vision Pro, de faire du tracking et
de
valider.
Ça fait de l'eye tracking sur l'écran?
Ouais, et tu pourras prendre un appel, décrocher comme ça, annuler un appel, faire autre chose. Enfin, ça, c'est intéressant.
On va faire des clins d'œil toute la journée maintenant à son téléphone, ça va être cool.
Exactement. Et l'IA, ils ont aussi donc un autre truc qui s'appelle Magic Portal, qui est une écoute de tout ton écosystème d'appareils au-delà d'Honor. C'est-à-dire que j'ai un MacBook, ça va me dire, mais vous ne voudriez pas transférer vos fichiers? On a repéré que vous aviez le MacBook Intel qui est branché sur le même Wi-Fi. Donc, ils sont en train de vouloir quelque chose de beaucoup plus large que le simple cadre Honor. Mais ça, je trouve que c'est intéressant. Évidemment, ils se comparent à Apple là-dessus en disant, nous, on fera encore mieux.
Voilà, Honor qui a de fortes ambitions, en France notamment. Et on va suivre de près cette marque.
Exactement.
Qui investit beaucoup. On parlera de Xiaomi tout à l'heure. Eux aussi ont fait une conférence de presse. Guillaume Merlemont, qui est le directeur marketing, sera avec nous. Il nous présentera toutes les nouveautés. Notamment, il y avait cette voiture aussi.
C'est intéressant de voir comment les marques de smartphones sortent de la simple fabrication de smartphones.
Et on a toujours dit qu'une Tesla, c'était un smartphone sur roues. Et bien finalement, maintenant...
Les smartphones se mettent des roues pour de vrai.
Les smartphones, on leur met des roues. Et on parlera tout à l'heure, entre autres, de la nouvelle voiture Xiaomi. Intéressant aussi, Samsung, donc, qui a... présenté son Galaxy S24 il y a quelques semaines de cela, est présent, mais on dit un petit peu plus sur un objet qui attise notre curiosité, c'est la bague connectée Samsung.
Ouais, et ben c'est marrant parce que ils l'ont annoncé, ils l'ont pas vraiment annoncé, enfin on l'avait vu.
Ouais, il y avait un teasing,
on avait juste
mystérieux.
Vu une image. Et en fait leur véritable annonce ici, c'est de la montrer. Donc moi je l'ai vu ce matin.
Okay.
Alors on peut pas la tester encore, mais je l'ai vu. Donc elle arrive en trois coloris différentes. Donc vous aurez le choix de l'avoir en noir, argent ou or. Il y a 9 tailles en effet de bagues pour s'adapter à chacun.
Ben oui.
Elle s'appelle vraiment Galaxy Ring, ce dont on n'était pas sûr, parce que tout le monde l'appelait Galaxy Ring, mais j'ai pas le souvenir au NPAC par exemple qu'ils avaient donné vraiment son nom. Là elle s'appelle Galaxy Ring. Elle arrivera au second semestre, donc c'est quand même demain. Elle sert pour la santé et le bien-être.
Est-ce qu'on sait ce qu'elle va faire ou pas ?
Eh bien, à moitié, honnêtement. Ah. Un tout petit peu. Ils ne sont pas... j'ai essayé de
gratter
quelques infos, mais à part la date, voilà, une fenêtre de tir pour la disponibilité.
Donc, fin d'année, on va dire.
Voilà. Mais ils nous ont longuement parlé, lors de leur conférence au mois de janvier, de Samsung Health, qui est leur application, leur environnement santé. Évidemment, elle arrive dedans. On nous explique bien que c'est une nouvelle catégorie. Hein. Ça n'est pas voué à remplacer une montre ou à même à venir à la place. C'est vraiment quelque chose de parallèle pour ceux qui ne veulent pas d'écran. Il y a des gens qui ne veulent pas avoir le nez sans arrêt sur un tracker d'activité ou une montre. Donc, ce sera pour ça. On n'a pas de prix, évidemment. On a juste des infos à minima. On sait qu'elle va entrer dans l'écosystème et suivre toutes vos données santé et leur transmettre. Est-ce qu'il y a une dimension domotique ? Alors, on ne me dit pas oui, on ne me dit pas non. Donc, on verra si on peut piloter sa maison de sa bague ou pas.
Voilà, encore... un nouveau secteur qui est investi par Samsung, hein, la bague connectée, alors qu'on entend des rumeurs comme quoi Apple pourrait aussi travailler là-dessus. Bon, on verra.
La santé avec Apple, c'est toujours un sujet extrêmement important. Là, ils misent beaucoup sur leurs montres pour multiples facultés.
Mais il y a plein de gens qui n'aiment pas avoir des montres et qui accepteraient peut-être plus facilement d'avoir une bague.
Ben c'est Samsung mise en tout cas là-dessus, en se disant, si vous ne voulez pas d'écran, nous, on est là quand même pour votre suivi santé.
Ouais, et puis, on peut imaginer que l'autonomie sera plus longue, etc., parce qu'il n'y a pas d'écran. On verra. Mais en tout cas, on en reparlera quand ça sortira. Autre nouveauté que tu as vue un peu étonnante, c'est Lenovo.
Oui, alors... Un Mobile World Congress, sans une innovation, un prototype, Lenovo, c'est pas vraiment un Mobile World Congress. Hein, on avait eu l'année dernière les PC, tu sais, avec cet écran qui s'étirait, les smartphones. Ils sont avec Motorola, donc ça va souvent de pair, mais ils aiment bien montrer qu'ils ont une R&D qui fonctionne très, très bien.
Mais bien sûr, ouais.
Donc, là, cette année, c'est un PC transparent, mais vraiment transparent. C'est-à-dire, c'est pas juste un effet. Alors, il n'y a pas le côté clavier n'est pas transparent en revanche, mais c'est un peu un ThinkBook, tu sais, de Lenovo, cette marque qui cartonne.
C'est-à-dire que toi, ton ordi, là, ton écran,
là, je verrai.
Je pourrais te voir au travers.
Ah, mais je mets ma main comme ça et je vois ma main à travers. Alors, la grande question, c'est à quoi ça sert ?
C'est la question que j'allais poser, Mélinda.
À quoi ça sert ? Alors, l'écran est de super. Alors, je voudrais quand même dire un truc qui m'a bluffé. L'écran est de super qualité.
C'est vrai.
C'est un écran micro LED. Et franchement, hyper, hyper quali. Quand on passe la souris, parce que passer une souris sur un écran transparent, on se dit, mais en fait, je clique où ? Eh bien, non, on la voit bien.
On la voit bien,
on la voit bien. Tu sais, il y a ce côté, on avait parlé des télé transparentes au mois de janvier de Samsung et LG.
Et LG, ouais.
Et bien, ça fait un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'évidence de ce qui est en surimpression sur le vide. Ben là, c'est pareil. En fait, on va cliquer naturellement. Sauf que si tu mets un pot de fleurs derrière l'écran, je le vois. Intérêt. Eux disent, ils ont prévu d'avoir une petite caméra qui se mettra sur le bas du PC côté extérieur pour pouvoir capter une image et donc te la reproduire sur l'écran ou que toi, si tu as envie de dessiner ta forme de ce qui se trouve derrière. Mais ils jouent vraiment sur la transparence, pas forcément en gadget, avec une utilité tu mets un élément dans ton décor. Alors, c'est un proto, il n'y a pas de date de sortie, il n'y a pas de prix.
On ne sait même pas si ça sortira en fait.
Non, c'est une démonstration technique pour dire, nous, ça, on sait le faire. On verra à quoi ça sert.
Mais c'est amusant comme il y a des espèces d'innovations qui arrivent et qui inondent le marché. On l'avait vu, tu as raison, au CES avec LG et Samsung qui ont présenté leur écran transparent. Là, c'est Lenovo. En fait, on a l'impression que les ingénieurs ont trouvé le truc. Ils ont trouvé un système pour faire des écrans transparents. Et maintenant, voilà.
Ça va popper partout.
Ça popper partout. Mais bon, la question, comme tu le disais, est-ce que ça a un vrai intérêt ?
Si c'est juste pour faire joli, en fait, ça fait cher.
Voilà, c'est ça.
Ça fait cher. Après, c'est très joli. Les télé transparentes, c'est très joli. Un PC avec un écran transparent, c'est très joli. En plus, tu peux prendre un stylet et écrire sur ton côté clavier. Alors, le clavier est numérique. C'est pas un clavier à touche, c'est comme un clavier tactile.
Ah d'accord.
Et donc soudainement ça peut se transformer en table de dessin. Donc tu vas voir ce que tu dessines sur ton écran. Il y a plein de petits usages, mais c'est comme toujours. Il faudra vraiment voir ce qu'on peut en faire. Mais c'est, en tout cas, c'est assez waouh.
Voilà, donc c'est Lenovo qui a présenté ça. Allez, on enchaîne avec autre chose. C'est Motorola. Motorola qui, tout comme Lenovo, d'ailleurs, Lenovo a racheté Motorola, rappelons-le. Mobile de Motorola. Elle appartient à Lenovo, au géant chinois. Et ben là aussi, Motorola présentait un concept de bracelet.
Alors, c'est assez drôle. En gros, prenez votre smartphone et enroulez-le-vous autour du poignet.
On ne va pas s'enrouler dans le...
Je ne t'enroule pas toi. Tu enroules le smartphone. Alors, c'est assez étrange parce que c'est quand même grand. C'est quand même grand. Et il y a quelques années, on avait vu un concept qui était en format montre un peu, tu sais. C'était un écran très, très fin qui prenait la forme d'une... Là, c'est assumé. C'est un écran qui va s'enrouler, en gros, autour du poignet. Mais ce n'est pas vraiment ça, le but. C'est vraiment de pouvoir tordre l'écran, de montrer comment on peut le tordre. Alors, c'est drôle parce que moi, c'est un concept que j'ai vu pour la première fois en 2016.
En 2016,
au Japon, au CEATEC, qui est le salon de Tokyo, et qui était... un concept Lenovo.
Tiens.
Comme par hasard. Oui, mais voilà, au moins ils sont fers. Les smartphones, c'est Motorola. Eux, là, ils le mettent sous Motorola. Alors, à quoi ça va servir ?
Mais voilà.
Oui, mais je t'entends parce que j'ai l'habitude avec toi.
Est-ce que c'est comme l'écran transparent ?
Alors, oui, parce qu'il y a le même effet waouh. Tu dis, pourquoi tordre un smartphone ? Je suis un peu plus sceptique sur le côté du smartphone parce que c'est très grand pour une taille de montre quand même. Ça fait quand même un smartphone. Mais... on voit plein de choses, plein d'usages qui peuvent arriver sur cet écran qui se plie. C'est presque plus pour montrer qu'ils savent faire un écran capable de s'incurver comme ça. J'étais plus bluffée l'année dernière par leur téléphone qui pouvait avoir un écran qui s'étire.
Oui, voilà. Alors ça, c'était bluffant.
Ça, c'était utile.
Et ça y est pas, ils ne le présentent pas cette année ?
Non, parce qu'ils l'ont présenté l'année dernière. D'accord. Donc cette année, c'est un autre concept.
Et j'avais adoré ce produit.
Mais
ce
ça,
smartphone qui s'allonge comme ça et qui devient
double de
taille.
Mais
c'est
là, on comprenait l'usage.
Oui.
Tu avais un gain de place
mais
et un écran plus grand.
Ben oui, c'était un peu comme un pliant, mais revisité. Mais le truc, c'est qu'on ne sait même pas si ça va sortir un jour, en fait.
Non,
tous ces produits-là.
Moi, je l'avais visité, la R&D de Motorola à Chicago. C'est des gens qui ont une imagination folle. Ils ont plein de concepts, ils ont plein de choses qu'ils veulent faire. Et donc, ici, ils montrent aussi bien à leurs partenaires, aux gens qui aiment bien la marque, qui sont capables de faire des choses un peu plus innovantes. On est sur un marché du smartphone qui est extrêmement concurrentiel. Tout le monde va se mettre de l'IA, tout le monde est arrivé à des niveaux de photos assez dingues. Donc, comment est-ce qu'on se démarque ? Samsung l'a montré avec le pliant qu'on pouvait se démarquer. Tout le monde y est allé, maintenant, il faut montrer autre chose. Donc, la R&D, elle tourne à plein régime.
Après, est-ce qu'on peut demain imaginer, tu vois, une montre connectée qui se clipserait au bras et qui serait totalement un écran, pourquoi pas enfin...
Alors, je te dis, je crois que c'est ZTE qui avait fait ça, qui avait eu ce concept qui était un énorme écran OLED que tu te mettais autour du poignet. C'est moins encombrant. Là, moi, le truc, je me dis, si vraiment on veut le mettre au poignet,
c'est
extrêmement
pas...
encombrant. Ouais. Quoi. Donc,
c'est un gros bijou, quoi.
Et voilà. Mais c'est vrai que c'est marrant de voir que on cherche des choses à faire. Je crois plus à l'écran que on pourra se mettre autour du poignet. Finalement, ce sera ton écran de montre démultiplié sur la longueur.
Oui, parce que tout ça, en fait, c'est des proof of concept, comme on dit. Voilà, on montre une technologie, et puis après, peut-être qu'un autre constructeur l'achètera, parce qu'il ne faut pas oublier que Lenovo vend aussi des concepts à d'autres constructeurs, etc. Donc, on verra bien.
Mais au moins, ils sont là, et ça fait de l'animation sur le Mobile World Congress.
Bon, tu as vu d'autres trucs assez rigolos, quand même. Hein. Une marque de smartphone.
C'est pas un nouveau gaulois.
Cette marque, moi, je l'avais vue il y a peut-être 5 ans ou 6 ans. Ils avaient essayé de percer le marché français avec des téléphones plutôt d'entrée de gamme. J'ai l'impression qu'ils étaient sortis du game, comme on dit. Et là, ils reviennent. Tu les as vus, là ?
Oui, là, je les ai vus. Et c'est vrai, alors moi, en revanche, je ne connaissais pas du tout la marque. Infinix Mobile, c'est une marque hongkongaise qui a quand même près d'un peu plus de 10 ans. Donc, j'ai découvert ça. Et j'ai découvert surtout qu'ils ont des centres de R&D en France, notamment.
Waouh !
Donc,
c'est dingue,
voilà.
Ça.
Et eux, c'est pareil. Alors, smartphone, comme tu disais, milieu de gamme, voire enfin, au mieux milieu de gamme, entrée de gamme. Ils sont très forts en fait en Amérique latine, au Maroc, dans des endroits comme ça, en Asie, mais c'est vrai, pas chez nous. Ça fait partie de ces marques qu'on voit de temps en temps apparaître, mais qu'on ne connaît pas nous.
C'est-à-dire qu'en France et en Europe, le marché est tellement encombré qu'ils vont plutôt vers les pays du Maghreb, où là, il y a une possibilité de vente.
C'est ça. Et donc là, moi, je les ai vus sur deux innovations qui sont intéressantes. Alors, ils essayent de faire du gaming en Amérique latine. Alors, nous, on n'aura pas leur smartphone gaming. En revanche, j'ai vu un smartphone très drôle avec un dos qui change de couleur. Donc, alors, il faut qu'il soit à la lumière. Mais c'est une technologie e-ink, un peu comme les liseuses. Et ça s'anime, ça change de couleur. On peut choisir un motif. Et à terme, ils veulent même carrément être capables de proposer du texte, proposer des choses.
C'est drôle, ça.
Donc, c'est très, très drôle. Et ça donnait un style un peu différent, un peu sympa.
Ouais. Tu as fait des petites vidéos, d'ailleurs, à retrouver sur les réseaux sociaux de Tech & Co, hein, tout ça, hein,
ouais.
Bien sûr. Ça, c'est la première innovation. Bon, après, à quoi ça sert? C'est que du design.
C'est du fun.
Hein. Voilà, c'est du fun, etc. On ne sait même pas si ça sortira en France, en plus.
Non, a priori, non. Ça fait partie des petites nouveautés qu'on croise au Mobile World Congress. Et on se dit, c'est marrant. Et puis, peut-être qu'on le reverra un jour, on ne sait pas.
Et autre innovation aussi, Infinix.
Oui.
Là, qui a un peu plus de sens, on va dire, c'est une charge sans fil.
Oui, mais ça, charge sans fil, OK. Mais charge sans fil, complètement aérienne.
Voilà.
Et alors, ça, souvenez-vous, on en avait
entendu. Donc, ce n'est
pas d'induction.
Je ne pose pas le téléphone sur quelque chose.
Tu peux.
Oui.
Tu peux le poser. En fait, c'est une énorme plaque. On l'a vu, c'est une énorme plaque comme un gros chargeur. On peut mettre le téléphone qui se charge tout de suite. Mais la particularité, c'est que si tu le poses et que tu mets même à 20 cm, il continue de charger. Et souvenez-vous, il y a 2-3 ans, on avait parlé beaucoup de ces chargeurs qui devaient être capables de charger votre appareil où que vous soyiez dans la pièce. Tout le monde avait dit, oh là là, va y avoir des ondes partout.
Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que ça pose un problème sanitaire en disant, oh là là, les ondes, mais après,
exactement,
c'est le rêve. T'imagines, tu rentres chez toi ou tu rentres dans un lieu et ton téléphone se recharge automatiquement, c'est le top.
Et bien là, c'est ça. En fait, on a même essayé, on a mis un morceau de bois entre le smartphone et la zone de charge. Ils continuent de charger. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent mettre ces chargeurs-là dans des meubles, en fait, les rendre hyper discrets, et on pourra le poser et charger toujours. Donc, marque à suivre aussi pour ces petites innovations autres. Pas forcément pour les smartphones, mais voilà, pour des chargeurs aériens comme ça, je ne sais même pas comment on dit. Je crois que c'est on-air, je ne sais même pas le terme.
Et puis voilà, alors, comme Infinix n'existe pas, peut-être que cette technologie arrivera sur d'autres smartphones.
Il me semble que Xiaomi avait présenté un concept qui était assez similaire de capacité à charger n'importe où. Ce n'était pas une plaque, mais c'était un système. C'est un peu comme un espèce d'énorme hub que tu mettrais dans ton salon et qui chargerait à peu près tout.
Et moi, j'avais vu un truc aussi au CES il y a quelques années. C'était une start-up israélienne qui, à la place des lumières de ta maison, je ne sais pas si tu te souviens de ça.
Si, tout à fait.
Et ça envoyait comme de l'infrarouge.
Et ben exactement.
Et ton téléphone, alors il fallait un téléphone compatible avec cette technologie, c'est un peu comme
un super
solaire photovoltaïque. Et en fait, la lumière envoyait en même temps de l'énergie électrique et tu posais ton téléphone sous le halo de lumière et il se rechargeait.
Ça me dit quelque chose.
Et je trouvais ça totalement bluffant.
Je me demande si ce n'est pas le CEA en France qui travaille sur une technologie
mais
assez similaire.
Sans doute. En fait, il y a plein de choses là-dessus. On essaie de casser la barrière entre l'énergie, les fils, etc., etc. Mais c'est vrai qu'après, il y a toutes les questions sanitaires.
Et toutes les inquiétudes à avoir.
Il ne faudrait pas qu'on se recharge aussi nous-mêmes.
on pèterait la forme toute la journée.
Ouais, je ne sais pas si ça durerait longtemps. Autre petite innovation que tu as vue, tu as fait des hologrammes.
Alors en fait, c'est un peu
à
bizarre.
Distance.
J'ai fait sans doute l'interview la plus étrange sur ce salon.
D'accord.
C'est-à-dire que j'ai interviewé une boîte blanche. Dans laquelle, une boîte blanche et noire, dans laquelle il y avait quelqu'un et qui était en fait aux Pays-Bas. Et je faisais l'interview avec lui.
Okay.
Et alors on se dit, on peut faire ça en visio, c'est vrai. Et bien imaginez que c'est de la visio vraiment avec zéro latence. C'est-à-dire c'est comme si toi, je t'avais mis derrière une vitre.
J'étais dans une boîte.
Et que je faisais l'interview avec toi, sauf que tu serais à des milliers de kilomètres d'ici.
Okay.
Alors c'est marrant, ça s'appelle HoloConnect. C'est une société donc néerlandaise. Et le patron était donc là-bas. Et ce qui était drôle, c'est que moi, j'avais juste une caméra et un petit micro pour qu'il me voie. Et lui, il bougeait. Donc, je le voyais bouger. Je voyais ses mimiques. Je le voyais sourire.
Mais il était grand, petit.
Il était grand. Il était en fait en taille réelle.
Taille humaine.
Ouais. Et
d'accord.
Il bougeait. Et ça donne un effet de profondeur. Donc
il y avait la 3D aussi. C'est ça que je voulais
exactement
te demander.
Exactement. C'est pas juste un
il
écran.
Il était transparent ou tu pouvais, par exemple, si tu étais un peu loin, même pas te rendre compte qu'il n'était pas là.
Alors, il y avait un peu ce côté-là. Alors, il fallait vraiment s'approcher pour voir que c'était qu'une image quelque part. Mais l'effet rend bien. Le but, évidemment, c'est pour plus faire du retail ou faire de la visio de haut niveau. Si, par exemple, vous avez une conférence et que la personne n'a pas pu venir, vous avez l'impression qu'elle est là, et sans que ça fasse l'effet hologramme, tu sais, en fausse transparence. Donc ça c'était marrant, mais et ça nécessite pas un gros débit finalement. Il me disait, j'avais peur qu'il faille quand un gros débit. Et non, en fait, il m'a dit qu'à partir de 10 mégabits, ça suffisait. Mais franchement, c'était intéressant dans le sens où ça ouvre plein de perspectives pour se dire dans les vitrines des magasins, dans tout ce qui va être en relationnel direct. Et c'est là où j'ai trouvé ça rigolo et surtout très très fiable.
Mais ça marche comment en fait ? Il y a un projecteur.
Lui, il est dans un environnement blanc.
Okay.
Donc au lieu d'avoir un fond d'écran bleu ou vert, et lui c'était blanc.
C'est blanc.
Il doit avoir une caméra un peu particulière qui permet de le capturer
en 3D.
Un peu en 3D.
Ouais.
Et après, via la cabine, on s'appelle. Donc il apparaît sur l'écran de la cabine que moi j'ai en face de moi. Et lui, je lui ai demandé ce qu'il voyait. Donc on voit bien que lui, il a une caméra et qu'il me voyait dans le décor.
Ouais, toi, il te voit pas en hologramme en fait. Non. Il te voit en visio.
Voilà, moi il me voit en visio et lui, je le voyais avec cet hologramme. Donc comme s'il y avait une vraie personne. J'ai eu peur au début, je pensais que c'était une IA. Je lui ai quand même demandé s'il n'était pas une IA. Et qui me répondait, tu sais, ça se faisait beaucoup, ça a été la mode, notamment il y a quelques années. Ben non, c'était une vraie personne. Donc c'est marrant de se dire, j'ai cru que c'était une IA qui me parlait, tellement il était réaliste.
Mais ça me fait penser à cette start-up La Vitre.
Mais c'est un peu la même idée.
C'est un peu la même idée où tu as des grands. Alors, ce n'est pas des hologrammes, La Vitre, mais c'est des grands écrans.
C'est de la projection
taille humaine et qui ont une super qualité. Quand tu discutes avec la personne, tu as l'impression qu'elle est là parce que. Elle est à la taille humaine, en fait.
Ben, c'est un peu ça. Sauf que
C'est peut-être une bonne idée, tout ça, finalement.
Mais ça
nécessite des installations assez lourdes dans les salles de réunion, les choses comme ça. Quoi. C'est ça qui est un peu embêtant.
C'est des choses qui vont être très pointues, sur des usages très pointus. Il me disait que, par exemple, il pouvait enregistrer, capter toute une vidéo avec la personne et la diffuser derrière avec ça.
Ah, okay.
Donc, tu peux faire quand même pas mal de choses intéressantes.
Oui, les concerts, les spectacles,
plein de choses. Donc c'est à suivre. Ce ne sera pas évidemment pour toi dans ta maison quand tu veux faire une visio, ça c'est clair. Mais voilà, c'est une petite idée retail à mon avis intéressante.
Et ça s'appelle Holo Connect.
Voilà.
Des Suédois, tu disais.
Non, néerlandais.
Néerlandais, pardon.
Néerlandais.
Autant pour moi. Et alors, autre chose que tu as remarqué, petite vidéo aussi à retrouver sur les réseaux sociaux, c'est Clix. Et alors ça, c'est rigolo parce que il y a plein de gens, je ne sais pas autour de toi, mais moi j'ai plein de copains de copines, surtout des copines qui regrettent leur BlackBerry.
Mais oui.
C'est dingue. Et pourtant, le BlackBerry, ça fait quoi? Ça fait 10 ans, 15 ans que ça n'existe pas. Ça
n'existe plus. Alors, non, ça fait un peu moins que ça, parce qu'on oublie qu'ils avaient essayé de sortir encore il y a une dizaine d'années des smartphones.
Mais ça marchait moins quand même.
Mais,
vrais BlackBerry qu'on avait à l'époque, ça a au moins 10 ans. Enfin,
plus 20.
Et alors, pour tous ceux qui ont la nostalgie du BlackBerry. Ouais. Melinda arrive.
J'arrive avec ma coque clavier.
Ta coque clavier.
Voilà. Ouh. Alors, ou comment transformer un iPhone pour le moment, mais d'autres marques peut-être, en BlackBerry en ajoutant un petit clavier. Alors, on l'avait entreaperçu au CES, mais il était qu'en QWERTY. Là, maintenant, il est en AZERTY.
Ah, donc, c'est mieux pour nous.
Soyez rassurés.
Pour nos petits doigts français.
Voilà.
C'est mieux.
Alors, je dis tout de suite, ça coûte un peu cher, moi, je trouve, pour ce que c'est. Entre 140 et 160 dollars selon votre modèle de téléphone.
Oui, mais quand on aime, on ne compte pas, Melinda.
C'est vrai, et en couleur, tu peux l'avoir en rose, bleu, noir, ce que tu veux.
Ouais.
Ça marche
donc
pas mal.
Tu glisses
ton téléphone dedans.
Ton iPhone dedans. OK, donc ça fait coque aussi.
Ça fait complètement coque. Tu le rechargeras, en fait, tu rechargeras la coque après. Et là, soudainement, ton clavier devient efficace. Donc, pour n'importe quoi, des SMS, naviguer sur Internet, écrire des mots, ça marche super bien. Tu as même moyen, tu as même des raccourcis sur le clavier pour aller, par exemple, activer l'écran d'emoji. Donc, les raccourcis qu'on trouve sur le clavier tactile, en fait, sont mis aussi sur le clavier.
C'est rigolo,
voilà.
Et alors, évidemment, toujours ton iPhone est tactile, donc tu peux te servir des deux, j'imagine.
Oui, tu peux faire les deux.
Et ça s'appelle Clicks.
Ouais.
C'est ça ?
Clix,
c'est sorti
exactement.
Ce truc-là ou...
C'est aux États-Unis pour le moment en précommande, mais leur site est mondial, donc il faut se mettre sur la liste pour dire qu'on en veut un.
Super, Melinda. Bon, tu vas vivre ce salon, parce que pour tout vous dire, on a enregistré cette émission au tout début du salon Mobile World Congress, même si vous la regardez, vous l'écoutez à la fin de la semaine. Donc tu as encore plein de trucs à nous montrer. Et allez sur le site de Tech & Co, tu vas pas t'arrêter.
Oui, non. Et puis voilà, on vous suit ça d'ici comme il faut sur le site. On a encore des kilomètres et des kilomètres d'aller et de haut à parcourir.
Ouais.
Voilà, on a plein d'articles, on est deux de la rédaction ici.
Voilà, et plein de petites curiosités. D'ailleurs, on en garde une ou deux pour notre petit module bonus. Le téléphone qui est le plus lourd du monde. Et vous dites à quoi il sert ? Ben, on vous dira
on va vous
ça
dire.
Dans le module bonus. Et puis aussi un téléphone qui va faire plaisir à tous ceux qui aiment le rose. Voilà.
On tout vous est, en dit tout pas est plus. Dit.
Voilà. Merci beaucoup, Mélinda, à tout à l'heure pour le module bonus.
À tout à l'heure.
Et nous, on se retrouve pour la deuxième partie de quoi je me mêle depuis donc, le stand d'Orange avec le patron de DxO. Et on va découvrir les nouveautés de Xiaomi et Guillaume Berlemont qui me rejoint. À tout de suite.
De quoi je me mêle depuis le MWC à Barcelone. BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle depuis le MWC à Barcelone. François Sorel.
Voilà de quoi je me mêle depuis le Mobile World Congress à Barcelone. Nous sommes ici sur le stand Orange. Tout à l'heure, on découvrira les nouveautés Xiaomi avec Guillaume Berlemont. Mais dans l'immédiat, j'accueille avec beaucoup de plaisir Frédéric Guichard. Bonjour Frédéric.
Bonjour François.
Le patron de DxO Marc. Voilà, une marque que vous connaissez un peu si vous nous suivez dans De quoi je me mêle et sur BFM Business dans Tech & Co, qui est un laboratoire assez discret malgré tout, mais qui capte tout l'intérêt de tous les grands de l'électronique grand public, que ce soit les Apple, les Samsung, tous s'intéressent à ce que vous faites parce que vous testez leurs produits et vous les aidez à les améliorer en quelque sorte.
Exactement, c'est-à-dire que le fait de tester les produits ou les prototypes avant qu'ils sortent sur le marché, ça permet de voir quelles sont les améliorations possibles. Parce qu'il y a de plus en plus de logiciels ou d'intelligence artificielle maintenant dans l'amélioration des images au niveau de la photo. Et donc on les aide à identifier les sources d'amélioration pour qu'ils fassent toujours de meilleurs produits.
Donc vous testez des smartphones, l'appareil photo, enfin divers composants. Alors, on va dire.
Exactement, on essaye de couvrir les composants multimédia, les aspects multimédia du téléphone qui comptent pour les utilisateurs. Donc aujourd'hui, la caméra est le critère numéro un. Il y a aussi l'écran, il y a aussi la batterie qui sont vraiment des critères importants dans les choix des utilisateurs et qui concentrent aussi ce qu'on appelle les pain points, des demandes d'amélioration de la part des utilisateurs.
Alors, il y a les smartphones, mais vous ne faites pas que ça. Vous avez d'autres produits que vous testez et petit à petit, vous agrandissez la famille de produits.
Alors, exactement. Alors, évidemment, les caméras, de façon générale, c'est notre cœur de métier. Donc, on teste évidemment les appareils photo standards, les smartphones qui sont en fait vraiment aujourd'hui des caméras tout à fait remarquables. Et on s'étend petit à petit sur d'autres secteurs, alors parfois moins consumer électronique, c'est-à-dire ça peut être l'automotive, sur les voitures, il y a des caméras sur les voitures, ça peut être, il y a de la robotique, il y a des caméras dans les robots, tout ce qui est machine vision en fait. Donc partout il y a une caméra, je pense qu'on est pertinent.
Le son aussi ou pas ?
Alors l'audio, absolument. Alors il se trouve que dans les smartphones, l'audio est devenu un critère qui est devenu secondaire parce qu'il y a des casques, il y a des implants et qui permettent d'avoir une expérience audio nettement supérieure à ce qu'on a avec le téléphone seul.
Après, bon, il y a la qualité du hardware à l'intérieur qui va restituer un bon son. Il y a peut-être des différences quand même entre on va dire tous les constructeurs, non ?
Alors, il y a des différences, mais aujourd'hui, la difficulté qu'ils ont, c'est qu'il n'y a pas assez de place en fait, pour mettre des haut-parleurs de puissance.
Et donc le son s'en ressent.
Et donc le son reste quand même quelque chose qui est un peu mis de côté.
Alors Frédéric, pourquoi êtes-vous ici au Mobile World Congress ?
Alors, le Mobile World Congress, pour nous, c'est une occasion unique de voir nos clients, en fait, dans le secteur des mobiles. On a tous les fabricants de téléphones qui sont là, l'écosystème qui est présent, les opérateurs téléphoniques aussi, comme Orange, chez qui on est.
Et il y en a plein, là. On est juste à côté du stand de T-Mobile, qui est tout rose, qui est superbe.
Voilà,
il y en a plein. Enfin, voilà, il y a tous les opérateurs de télécoms.
Ils sont tous là. Donc, en fait, il y a toute l'industrie, tous nos clients qui sont là. Et qu'on peut voir en une semaine, donc c'est une occasion assez unique en fait.
Et est-ce que il y a aussi des moments secrets où les constructeurs vous montrent des produits qui ne sont pas encore dévoilés au grand public, des prototypes, des choses comme ça ?
Alors effectivement, quand on travaille avec les constructeurs, souvent on travaille sur des prototypes. On travaille en amont de la sortie des téléphones. On peut travailler même très très en amont, c'est-à-dire au niveau de la conception, les choix des composants du téléphone. Donc,
des fois, vous travaillez combien de temps avant la sortie d'un téléphone ?
Alors, en général, c'est sur les 4 derniers mois. C'est là où on a notre gros pic de travail. Mais il arrive qu'on travaille un an avant, voire 3 ans avant. 3 ans avant, c'est qu'on travaille sur des algorithmes qui vont être embarqués sur les chips, enfin les puces. Et en gros, il y a un délai à peu près de 3 ans entre le moment où l'algorithme est conçu et le moment où il finit gravé sur la puce.
Alors, vous êtes un fin observateur aussi des tendances technologiques chez DxO, parce que c'est votre métier finalement. Vous faites beaucoup de veille. Qu'est-ce que vous remarquez cette année ? Quelles sont les tendances dans le monde du smartphone, Frédéric ?
Alors, évidemment, aujourd'hui, les constructeurs mettent l'AI en avant. Et c'est vrai que l'AI, ne serait-ce qu'en photographie ou en générative AI ou dans l'accompagnement de l'expérience utilisateur, l'AI est en train de bouleverser le téléphone et notre interface avec le monde numérique.
Et ça, ça nécessite beaucoup de puissance de calcul, de nouveaux processeurs. Enfin, c'est quand même, c'est pas anodin. Ça implique une transformation hardware des téléphones.
Exactement. Donc là, évidemment, les fabricants de puces poussent énormément pour l'adoption de ce genre de techno. Mais c'est vrai que ces technos ont une vraie plus-value pour les utilisateurs. Donc il y a ce thème-là. Il y a d'autres thèmes qui sont peut-être un peu mis de côté aujourd'hui, mais qui sont vraiment très présents. C'est en photo, par exemple, c'est les skin tones. Aujourd'hui, le monsieur tout le monde veut
c'est le ton de la couleur de la peau,
le contraste, la façon dont les visages sont rendus en fait.
Okay. Et ce qui est le plus compliqué, il faut le dire.
C'est le plus difficile parce que c'est là où ils sont exigeants en fait. Ils sont exigeants sur leur qu'on fait un selfie, on est exigeant sur notre apparence, être représenté dans la photo comme on aimerait l'être, pas forcément comme on est. et donc là, il y a les goûts, les tendances. Et donc, par exemple, on fait énormément de tests utilisateurs dans différents pays pour essayer de comprendre les goûts et les couleurs dans chaque pays, parce qu'on peut imaginer que ça diffère en Europe et l'Inde, par exemple, ou la Chine. Les goûts et les couleurs sont différents.
Et bien sûr. Et puis les couleurs de peau ne sont pas pareilles.
Ils ne sont pas les mêmes d'une part. Et il y a un aspect culturel qui amène à avoir des préférences aussi légèrement différentes. Donc ça, c'est un des thèmes. Un autre thème, c'est le HDR. Le HDR est partout. Donc, il a été lancé par les écrans OLED qui permettent un affichage de grande dynamique. Et donc, maintenant, c'est la capture vidéo qui était déjà HDR depuis quelques années et maintenant en photo. Alors là aussi, c'est technique. C'est pas forcément mis en avant directement pour l'utilisateur, mais ce que va voir l'utilisateur, c'est des photos et des vidéos de meilleure qualité.
D'accord. Donc vraiment, toujours la photo, l'image au cœur de l'innovation finalement.
Exactement.
Réseau moins. Finalement, on est passé à la 5G, c'est bon ?
Oui, alors c'est vrai que le fait d'avoir du réseau, c'est toujours important. Mais pour un fabricant de téléphone, en fait, quand on n'a pas de réseau, on ne sait pas ce que c'est le téléphone qui ne capte pas ou est-ce que c'est l'opérateur qui ne joue pas son rôle.
Qui n'est pas performant.
Donc en fait, les torts étant partagés, c'est pas forcément un sujet de choix de téléphone aujourd'hui. Ça pourrait peut-être le venir un jour.
Il y a aussi le Wi-Fi 7 qui arrive dans les smartphones.
Effectivement, le Wi-Fi 7 est un usage. Alors typiquement pour les gamers, c'est vraiment important.
Ouais.
Mais aujourd'hui, quand même, le critère de choix du téléphone reste l'appareil photo numéro 1 et la batterie, l'autonomie. Et c'est vrai que les téléphones, en tout cas les téléphones haut de gamme, faisant de plus en plus de choses, ils consomment de plus en plus de ressources. Alors, effectivement, les composants sont de plus en plus économes, donc il y a une guerre entre apporter plus de valeur ajoutée à l'utilisateur et tout en préservant l'autonomie. Et là aussi, l'AI va pouvoir aider parce que l'AI va pouvoir comprendre quels sont les usages de chaque personne et adapter la puissance, les softs qui tournent, les logiciels qui tournent en background sans qu'on le sache,
et
pour
optimiser
l'autonomie du téléphone. Voilà.
Et voilà, la consommation d'énergie, on n'a pas encore résolu ce problème. Hein.
Alors, c'est toujours un vrai problème. Alors,
non, mais c'est dingue,
y a un mieux. Et par exemple, le Magic 6 Pro hier
d'Honor
Et c'est le premier, disons, parmi les flagships qui a une autonomie assez grande. Donc en fait, il y a eu un vrai travail là d'optimisation de toute la partie logicielle.
Mais la batterie n'est toujours la même, ou est-ce qu'ils ont changé la chimie de la batterie ?
Alors, il y a une partie de technologie de batterie, mais je dirais ils ont tous accès aux mêmes technologies de batterie. Donc effectivement, il y a un changement de techno qui a permis de gagner un peu, mais il y a aussi derrière ça des optimisations logicielles et tout en maintenant une bonne expérience utilisateur, le fait de pouvoir avoir une autonomie.
C'est dingue parce autonomie. Tout évolue dans un téléphone. Il n'y a que la batterie qui aujourd'hui est un peu bloquée. En termes d'innovation, voilà, on attend peut-être une batterie qui pourrait se recharger en quelques secondes et nous donner quelques jours d'autonomie.
Il y a eu quand même beaucoup de progrès ces dernières années. C'est-à-dire qu'ils sont passés à des charges qui prenaient 2 heures, 3 heures.
Ouais.
Là, il y a des chargeurs, même 200 watts, qui peuvent charger en 10 minutes, en tout cas donner une grande autonomie en 10 minutes de charge. Donc, disons, la charge est de moins en moins un pain point. L'autonomie le reste fortement. Et c'est parce qu'on fait de plus en plus de choses aussi avec nos téléphones. On passe de plus en plus de temps, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. Et donc, on a effectivement besoin d'optimisation à ce niveau-là.
On n'a pas parlé de VR, mais quand on voit qu'Apple arrive avec un Vision Pro,
oui,
et que c'est un segment qui commence à prendre un peu d'ampleur, hein, mine de rien, quand Apple arrive quelque part, forcément,
ça fait... que ça va bouger.
Ils prennent de la place. Vous testez le Vision Pro ?
Alors, on prépare, mais ça sera pour la fin d'année peut-être, un benchmark de ce genre de, d'appareil.
Vous allez créer un nouveau benchmark de masque VR ?
Un benchmark, oui, mais pas forcément un ranking. Pas un classement, oui.
Mais vous y travaillez ?
On y travaille. Il y a des caméras.
Il y a des écrans
et
à l'intérieur.
C'est notre métier de tester ce genre de choses.
Vous l'avez testé, le Vision Pro, ou pas ?
Je pense qu'on a tous joué avec.
Qu'est-ce que vous en pensez ? En tant que... DxO, c'est un produit intéressant ou pas ?
Alors, je pense qu'il amène un niveau de qualité qui commence à être utilisable, je dirais, en tout cas pour moi. Et donc, on passe à un moment où ça peut devenir un outil réellement qu'on peut utiliser pendant un certain nombre d'heures. Je trouve qu'il est encore un peu lourd. Il y a encore quelques points de rugosité qui fait que je ne pense pas que je passerai ma journée avec. Mais
on
commence en tout cas à voir... de la valeur dégagée de ce genre de choses en dehors des expériences de gaming et autres.
Voilà, et quand vous dites que parfois vous travaillez 3 ans à l'avance sur des produits, on imagine la R&D chez Apple pour imaginer le produit.
C'est des années de recherche.
Ouais. C'est dans 10 ans qu'on aura sans doute un truc qui ressemblera à ce qu'on rêve, non ?
Alors, le monde va vite quand même.
Ça va vite ? Vous pensez que ça sera plus...
Mais oui, il faudra quand même, je pense, que quelques années. Ouais.
C'est intéressant tout ça, en tout cas. Merci beaucoup Frédéric d'être passé par le plateau de Quoi Je Me
Mêle. Merci à vous François.
Sur le stand d'Orange. Et on suit toujours vos classements avec beaucoup d'intérêt. Merci.
Merci.
Et on va recevoir maintenant une marque que vous connaissez bien, c'est Xiaomi.
Très bien.
Qui a présenté son 14.
Exactement.
Le 14 Ultra.
Exactement. Le 14, on devrait publier les résultats très, très prochainement.
On va le découvrir maintenant.
Et les ultras, mais on attend le ultra avec impatience dans nos tests.
Merci beaucoup.
Merci.
Et tout de suite donc mon invité Guillaume Berlemont de chez Xiaomi. Et donc autre acteur puissant dans le monde du smartphone aujourd'hui, ça va même au-delà du smartphone parce qu'il y a tout un écosystème chez Xiaomi. On va en parler avec mon invité Guillaume Berlemont. Bonjour Guillaume.
Bonjour François.
Guillaume Berlemont qui est le directeur marketing France de Xiaomi, présent ici au Mobile World Congress avec une conférence de presse qui a eu lieu dimanche soir où vous avez présenté vos nouveaux flagships, comme on dit, la gamme 14 de chez Xiaomi. On va en parler dans un instant. Mais c'est toujours bien de revenir un petit peu sur les fondamentaux de Xiaomi. Je le disais, c'est une marque qui a un gros affect. Et qui fait bien plus que des smartphones, fait même des voitures, d'après ce que j'ai compris.
Alors oui, ça c'est la nouveauté. Et effectivement, pour revenir peut-être un tout petit peu sur Xiaomi, rappeler que Xiaomi est le troisième constructeur de smartphones au monde, troisième également en France.
Ah ouais, d'accord.
Une entreprise qui est encore jeune, puisqu'elle existe depuis un petit peu plus de 10 ans, et présente en France depuis à peine 5. Donc encore beaucoup de chemin parcouru déjà. une position qui est solide. Et puis, comme tu le disais, pas que des smartphones. La particularité de Xiaomi, c'est d'avoir tout un écosystème autour des objets connectés de la maison et qui est ultra vaste. Hein. Il y a plus de 2000 références possibles. Et ça, c'est une proposition unique sur le marché, en fait.
Et pas toutes sont disponibles en France, d'ailleurs.
Pas toutes sont disponibles en France.
En Chine, il y a ribambelle de produits.
Tout
c'est
à fait,
incroyable.
Tout à fait. En France, on en commercialise à peu près 250.
Ce qui est déjà pas mal.
Ce qui est déjà beaucoup.
Et ça va de l'aspirateur au air fryer, en passant par le smartphone, les télés. C'est dingue.
Absolument tout. N'oublions pas aussi les trottinettes électriques.
Les trottinettes qui est vraiment un gros marché pour vous.
Qui est un gros business, effectivement, pour nous. Et on est très présent en France sur ce marché de la trottinette.
Et avant d'entrer là-dedans, la voiture. Parce que vous parlez d'une voiture, vous en êtes où, cette voiture? C'est la Xiaomi
SU7. Tout à fait. Pour le moment, c'est un énorme projet, un gros projet avec des investissements très conséquents. Donc, on prend les choses très sérieusement. Ce qui a été annoncé, c'est une volonté de s'installer durablement sur ce marché, d'être dans le top 5 des constructeurs monde à horizon 15-20 ans.
D'accord.
Et pour le moment, c'est un véhicule qui va être disponible sur le marché chinois. Et il n'y a pas encore d'informations officielles de communiquer.
Ok.
Au-delà du territoire
chinois.
Exactement.
Mais bon, Xiaomi a inauguré une usine ultra moderne avec plein de méthodes innovantes de construction de véhicules, un peu à la Tesla finalement.
Tout à fait. C'est encore une fois, c'est un très gros investissement et les choses sont prises de manière très sérieuse avec une usine ultra moderne, des procédures de fabrication qui sont également très innovantes et que très peu de constructeurs dans le monde possèdent. Donc, c'est un sujet sérieux qui nous occupera très certainement dans les années à venir.
C'est
là pour le moment, on est encore sur smartphone, produits de la maison, objets connectés et peut-être donc véhicules électriques aussi en Europe, en France.
On verra.
Dans un avenir.
En tout cas, ce que vous avez annoncé, c'est donc deux smartphones. Alors, il y a le 14 et le 14 Ultra. Et donc, la pérennisation de votre partenariat avec Leica, géant de la photo. Enfin, voilà, les lécaïstes, on le sait, sont vraiment des gens qui adorent la photo. Peut-être juste un mot sur ce partenariat avec Leica. Est-ce que c'est simplement un logo posé sur le téléphone ou est-ce qu'il y a vraiment des équipes de R&D qui travaillent ensemble? Enfin, ce n'est pas que du marketing, tout ça?
Non, ce n'est pas que du marketing, effectivement. Et d'ailleurs, ça faisait partie des annonces d'hier. Une des trois grandes annonces qui était l'ouverture de trois centres R&D supplémentaires avec Leica, des Optical Institute, dont un qui sera basé à Pékin, qui embauche plus de 200 ingénieurs en optique.
D'accord.
Et le travail, c'est la poursuite du savoir-faire de Leica sur tout ce qui est hardware, l'optique pure. Et puis, les connaissances de Xiaomi en termes de développement soft et d'application également de ce qui va être intelligence artificielle au rendu photo.
Okay.
Et de travailler conjointement Xiaomi Leica pour pouvoir produire justement et continuer d'avancer sur les images, la qualité d'image du futur, aussi bien d'un point de vue hardware que software.
Donc, si j'ai bien compris, Leica s'occupe de l'optique des smartphones, d'accord?
C'est ça.
Les lentilles, etc., etc. Et vous, Xiaomi, c'est le traitement de cette image ou malgré tout, Leica a son mot à dire là-dedans aussi?
Alors, on utilise aussi leur savoir-faire parce que en tant que...
Mais parce qu'il y a une couleur Leica, il y a
sûr.
Une patte Leica.
Disons que les fabricants de boîtiers comme Leica l'est se battent aussi sur la science des couleurs. Et quel type de rendu les photos faites avec leurs appareils vont avoir. Et ça, ils nous l'apportent, bien entendu. Au-delà de la lentille et du hardware pur, on réutilise tout leur savoir-faire en termes de colorimétrie avec le style authentique de Leica. Et ensuite, nous, on y apporte du post-processing pour pouvoir améliorer les images et qu'elles soient parfaites en un shot, puisque la grande différence finalement entre une photo smartphone et une photo avec un boîtier plutôt classique, c'est que celle du smartphone, on souhaite qu'elle soit utilisable tout de suite. On n'a pas forcément envie de repasser, tout le monde n'est pas photographe professionnel, de la retraiter dans des logiciels pro. Ce qu'il faut, c'est qu'elle soit parfaite tout de suite. Et ça, c'est ce que le moteur, justement, apporte côté Xiaomi.
Alors, donc, la photo Leica. Et puis après, il y a toute cette couche d'intelligence artificielle que vous avez poussé aussi, que vous avez présenté lors de la conférence avec le patron de Qualcomm qui est monté sur scène. ça prouve en tout cas le, on va dire, le degré de complicité qu'il y a entre vous, hein, Qualcomm qui fabrique, on va dire, 90% des processeurs sur les smartphones aujourd'hui, avec le dernier Snapdragon, le 8 Gen 3, je crois.
C'est ça.
Qui est dans le nouveau Xiaomi 14, c'est ça ?
Qui se trouve dans le 14, ainsi que dans son grand frère, le 14 Ultra, tout à fait. Oui, bah, ça fait, c'est une des couches de notre deuxième grande annonce d'hier, qui était l'arrivée d'HyperOS, notre nouvelle OS qui est...
Donc une surcouche d'Android, c'est
tout,
ça ?
Tout à fait. C'est un Android très retravaillé,
okay.
Et qui va nous permettre d'uniformiser en fait les OS entre tous nos produits. Donc que ce soit smartphone, bien entendu, la voiture et tout ce qui va être objet connecté. Donc montre, bracelet évidemment, mais également objet de la maison. Et donc HyperOS va nous permettre de faciliter toute cette connectivité et de pouvoir ajouter également une dose d'intelligence artificielle sur la gestion de tous ces objets entre eux, pour qu'ils puissent fonctionner de manière idéale et la plus intuitive possible pour l'utilisateur dans le futur. C'est ce qu'on appelle l'IA prédictive, en fait, qui va générer des scénarios et anticiper les besoins de l'utilisateur avec l'ensemble de ces produits qui vont communiquer donc ensemble.
Parce que mine de rien, HyperOS, c'est un gros chantier. C'est le fait de se dire que tous vos produits, on va dire intelligents, passent sur cette couche HyperOS pour que tous les appareils puissent discuter entre eux, c'est ça ?
C'est bien ça. C'est 7 ans de développement, donc c'est pas.
Et c'est le coup d'envoi cette année.
Et le coup d'envoi cette année. Et là, les Xiaomi 14 qui donc sont disponibles à partir d'aujourd'hui sont les premiers produits porteurs en France.
Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de dialogue qu'il peut y avoir avec les autres produits que Xiaomi sur HyperOS ?
Bien sûr, ce qui va venir une fois que donc HyperOS sera déployé sur plus de produits, c'est un exemple avec HyperMind, qui est donc la partie prédictive de l'IA d'HyperOS en utilisant les datas aussi bien de ta montre, de prédire ensuite des scénarios d'usage, activer les produits, de ne pas les activer, de les faire remonter ne serait-ce que dans l'interface pour pouvoir justement les avoir sous la main pour les activer si on veut le faire manuellement. C'est vraiment tous les produits qui vont travailler ensemble et donc générer de la data pour pouvoir intelligemment les utiliser et si possible faciliter le quotidien de chacun. Je vais pas dire sans qu'on ait plus rien à faire parce que c'est pas non plus le but, mais en tout cas à nous aider
à
faciliter le quotidien tout simplement.
Que des tâches se fassent automatiquement en fait.
Ou soient proposées automatiquement et qu'on n'ait plus qu'à dire oui ou non, vas-y.
Ces deux téléphones sont dispo quand, Guillaume ?
Alors le Xiaomi 14 est disponible depuis hier soir, donc c'est celui-ci, c'est le petit frère. Et le Xiaomi 14 Ultra, lui, sera disponible avec son grande optique à partir du 19 mars. Et donc, il est en précommande dès maintenant.
Voilà, 1 000 € pour le 14 et 1 500 € à peu près pour le 14 Ultra.
Exactement, c'est précisément. Qui sera accompagné d'un pack photo pro qui va vraiment permettre, parce qu'on veut vraiment pousser cette histoire de photographie, c'est ça, hein, l'histoire des Xiaomi 14. Et avec le 14 Ultra, on pousse l'histoire jusqu'au bout avec ce pack photo pro qui comprend un grip, un adaptateur pour pouvoir y mettre des filtres et vraiment tout le matériel, une batterie supplémentaire et tout le matériel finalement qu'il faut pour avoir faire de la street photo.
C'est ça, pour avoir une prise en main d'un appareil photo, enfin
pro.
En tout cas.
Une prise en main pro, voilà, je pense qu'on peut le dire. En tout cas, c'est le retour que nous ont fait les photographes qui ont pu le tester. Eux, ils ont l'impression d'avoir un petit boîtier Leica entre les mains avec ça.
Voilà, Xiaomi, avec ces deux nouveautés présentées donc au Mobile World Congress. Merci beaucoup, Guillaume.
Merci, François.
Guillaume Berlemont, donc directeur marketing chez Xiaomi France. Pour terminer ce De quoi je mêle, c'est un vrai plaisir que de vous retrouver depuis Barcelone. Voilà, pour essayer de vous brosser un peu les tendances de ce salon édition 2024. Le module bonus vous attend avec Mélinda et j'aurai le plaisir de vous retrouver bien sûr la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.
De quoi je me mêle depuis le MWC à Barcelone.